Chapitre 3. Les sœurs ne trouvèrent pas à propos de révéler ces merveilles. C'eût été contribuer elles-mêmes à la gloire de leur cadette. Elles dirent que leur voyage avait été inutile, qu'elles n'avaient point vu Psyché, mais qu'elles espéraient la voir par le moyen d'un jeune homme appelé Zéphyr, qui tourne sans cesse à l'entour du roc et qu'elles gagneraient infailliblement pourvu qu'elles s'en voulussent donner la peine. Quand elles étaient seules et qu'on ne pouvait les entendre, elles se plaignaient l'une à l'autre de la félicité de leur sœur. « Si son mari, disait l'une, est aussi bien fait qu'il est riche, notre cadette se peut vanter que l'épouse de Jupiter n'est pas si heureuse qu'elle. Pourquoi le sort lui a-t-il donné tant d'avantages sur nous? Méritions-nous moins que cette jeune étourdie? Et n'avions-nous pas autant de beauté, plus d'esprit qu'elle ?» « Je voudrais que vous suciez, disait l'autre, quelle sorte de mari j'ai épousé. Il a toujours une douzaine de médecins à l'entour de sa personne. Je ne sais comme il ne les fait point coucher avec lui, car, pour me faire cet honneur, ce ne lui arrive que rarement et par des considérations d'état. Encore faut-il qu'Esculape le lui conseille. » « Ah, ma condition, continuait la première, est pire que tout cela. » Car non seulement mon mari me prive des caresses qui me sont dues, mais il en fait part à d'autres personnes. Oh, si votre époux a une douzaine de médecins autour de lui, je puis dire que le mien a deux fois autant de maîtresses, qui toutes, grâce à Lucine, ont le nom de fécondité. La famille royale étant aussi ample qu'il aurait de quoi faire une colonie très considérable. » C'est ainsi que nos envieuses se confirmaient dans leur mécontentement et dans leur dessein. Un mois était à peine écoulé qu'elles proposèrent un second voyage. Les parents l'approuvèrent fort. Les maris ne le désapprouvèrent pas, c'était autant de temps passé sans leur femme. Elles partent donc, laissent leur train à l'entrée du bois, arrivent au pied du rocher sans obstacle et sans dragon. Le zéphyr ne parut point, et ne laissa pas de les enlever. Ce méchant couple amenait avec lui la curieuse et misérable envie, pâle démon que le bonheur d'autrui nourrit de fiel et de mélancolie. Cela ne les rendit pas plus pesantes, au contraire, la maigreur étant inséparable de l'envie, la charge n'en fut que moindre, et elles se trouvèrent en peu d'heures dans le palais de leur sœur. On les y reçut si bien que leur déplaisir en augmenta de moitié. Psyché, s'entretenant avec elle, ne se souvint pas de la manière dont elle leur avait peint son mari la première fois, et par un défaut de mémoire où tombe ordinairement ceux qui ne disent pas la vérité, elle le fit de moitié plus jeune, d'une beauté délicate, et non plus un Mars mais un Adonis, qui ne ferait que sortir de page. Les sœurs, étonnées de ces contradictions, ne surent d'abord qu'en juger. Tantôt elles soupçonnaient leur sœur de se railler d'elle, tantôt de leur déguiser les défauts de son mari. À la fin, elles la tournèrent de tant de côtés que la pauvre épouse avoua la chose comme elle était. Ce fut aussitôt de lui glisser leur venin, mais d'une manière que Psyché ne s'en put apercevoir. « Toute honnête femme, lui dirent-elles, se doit contenter du mari que les dieux lui ont donné, quel qu'il puisse être, et ne pas pénétrer plus avant qu'il ne plaît à ce mari. Si c'était toutefois un monstre que vous eussiez épousé, nous vous plaindrions, d'autant plus que vous pouvez en devenir grosse. » Et quel plaisir de mettre au jour des enfants que le jour n'éclaire qu'avec horreur et qui vous font rougir, vous et la nature. « Hélas !» dit la belle avec un soupir, « je n'avais pas encore fait de réflexion là-dessus. » Ses sœurs, lui ayant allégué de méchantes raisons pour ne s'en pas soucier, se séparèrent un peu d'elle afin de laisser agir leur venin. Comme Psyché fut seule, toutes ses craintes, tous ses soupçons lui revinrent dans la pensée. « Ah, oh, mes sœurs, s'écria-t-elle, en quelle peine vous m'avez mise! Les personnes riches souhaitent d'avoir des enfants. Moi qui ne suis entouré que de pierreries, il faut que je fasse des vœux au contraire. C'est être bien malheureuse que de posséder tant de trésors et appréhender la fécondité. Elle demeura quelque temps comme ensevelie dans cette pensée, puis recommença avec plus de véhémence qu'auparavant. Quoi, Psyché peuplera de monstres tout l'univers? Psyché, à qui l'on dit tant de fois qu'elle le peuplerait d'amour et de grâce, ah, non, non, je mourrais plutôt que de m'exposer davantage à un tel hasard. On arrive ce qui pourra, je veux m'éclaircir, et si je trouve que mon mari soit tel que je l'appréhende, il peut bien se pourvoir de femme, je ne voudrais pas l'être un seul moment de plus riche monstre de la nature. Nos deux furies, qui ne s'étaient pas tant éloignées qu'elles ne pussent voir l'effet du poison, entendirent plus qu'à demi ces paroles et se rapprochèrent. Psyché leur déclara naïvement la résolution qu'elle avait prise. Pour fortifier ce sentiment, les deux sœurs le combattirent, et, non contentes de le combattre, elles firent encore mille façons propres à augmenter la curiosité et l'inquiétude. Elles se parlaient à l'oreille, haussaient les épaules, jetaient des regards de pitié sur leurs sœurs. La pauvre épouse ne put résister à tout cela. Elle les pressa à la fin d'une telle sorte qu'après un nombre infini de précautions, elles lui dirent tout bas. Nous voulons bien vous avertir que nous avons vu sur le point du jour un dragon dans l'air. Il volait avec assez de peine, appuyé sur le zéphyr, qui volait aussi à côté de lui. Le zéphyr l'a soutenu jusqu'à l'entrée d'une caverne effroyable. Là, le dragon l'a congédié et s'est étendu sur le sable. Comme nous n'étions pas loin, nous l'avons vu se repaître de toutes sortes d'insectes. Vous savez que les avenues de ce palais ont fourmillé. Et après ce repas et un sifflement, il s'est traîné sur le ventre dans la caverne. Nous qui étions étonnés, toutes tremblantes, nous nous sommes éloignés de cet endroit avec le moins de bruit que nous avons pu et avons fait le tour du rocher de peur que le dragon ne nous entendît lorsque nous nous appellerions. Nous vous avons même appelé moins haut que nous n'avions fait à la précédente visite. Et au premier accent de votre voix, une douce haleine est venue nous enlever sans que le zéphyr ait paru. C'était mensonge que tout cela. Cependant, Psyché y ajoute à foi. Les personnes qui sont en peine croient volontiers ce qu'elles appréhendent. De ce moment-là, notre héroïne cessa de goûter sa béatitude et n'eut en l'esprit qu'un dragon imaginaire dont la pensée ne la quitta point. C'était à son compte ce digne époux que les dieux lui avaient donné, avec qui elle avait eu des conversations si touchantes, passé des heures si agréables, goûté de si doux plaisirs. Elle ne trouvait plus étrange qu'il appréhendât d'être vu. C'était judicieusement fait à lui. Il y avait pourtant des moments où notre héroïne doutait. Les paroles de l'oracle ne lui semblaient nullement convenir à la peinture de ce dragon. Mais voici comme elle accordait l'un et l'autre. « Mon mari est un démon ou bien un magicien qui se fait tantôt dragon, tantôt loup, tantôt empoisonneur et incendiaire, mais toujours monstre. Il me fascine les yeux et me fait à croire que je suis dans un palais servi par des nymphes environnés de magnificence. » Que j'entends des musiques, que je vois des comédies. Et tout cela, songe, il n'y a rien de réel, sinon que je couche aux côtés d'un monstre ou de quelque magicien. Oh, l'un ne vaut pas mieux que l'autre. Le désespoir de Psyché passa si avant que ses sœurs eurent tout sujet d'en être contentes. Ce que ces misérables femmes se gardèrent bien de témoigner. Au contraire, elles firent les affliger, elles prirent même à tâche de consoler leur cadette, c'est-à-dire de l'attrister encore davantage, et lui faire voir que puisqu'elle avait besoin qu'on la consolât, elle était véritablement malheureuse. Notre héroïne, ingénieuse à se tourmenter, fit ce qu'elle put pour les satisfaire. Mille pensées lui vinrent en l'esprit et autant de résolutions différentes, dont la moins funeste était d'avancer ses jours sans essayer de voir son mari. « Je m'en dirai, disait-elle, parmi les morts, avec cette satisfaction que de m'être fait violence pour lui complaire. » La curiosité fut toutefois la plus forte, outre le dépit d'avoir servi au plaisir d'un monstre. Comment se montrer après cela ? Oh, il fallait sortir du monde, mais il en fallait sortir par une voie honorable. C'était de tuer celui qui se trouverait avoir abusé de sa beauté, et se tuer elle-même après. Psyché ne se put rien imaginer de plus à propos ni de plus expédient. Elle en demeura donc là. Il ne restait plus que de trouver les moyens de l'exécuter. C'est où la difficulté consistait. Car, premièrement, de voir son mari, il ne se pouvait. On emportait les flambeaux dès qu'elle était dans le lit. De le tuer, encore moins. Il n'y avait en ce séjour bienheureux ni poison, ni poignard, ni autre instrument de vengeance et de désespoir. Nos envieuses y pourvurent et promirent à la pauvre épouse de lui apporter au plus tôt une lampe et un poignard. Elles cacheraient l'un et l'autre jusqu'à l'heure que le sommeil se rendait maître de ce palais, et tenaient charmer le monstre et les nymphes, car c'était un des plaisirs de ce beau séjour que de bien dormir. Dans ce dessein, les deux sœurs partirent. Pendant leur absence, Psyché eut grand soin de s'affliger, et encore plus grand soin de dissimuler son affliction. Tous les artifices dont les femmes ont coutume de se servir quand elles veulent tromper leur mari furent employés par la belle. Ce n'était qu'embrassements et caresses, complaisances perpétuelles, protestations et serments de ne point aller contre le vouloir de son cher époux. On n'y omit rien, non seulement envers le mari, mais envers les nymphes, les plus clairvoyantes y furent trompées. Que si elle se trouvait seule, l'inquiétude la reprenait. Tantôt, elle avait peine à s'imaginer qu'un mari, qu'à toutes sortes de marques, elle avait sujet de croire jeune et bien fait, qui avait la peau et l'humeur si douce, le ton de voix si agréable, la conversation si charmante, qu'un mari qui aimait sa femme et qui la traitait comme une maîtresse, qu'un ami, dis-je, qui était servi par des nymphes et qui traînait à sa suite tous les plaisirs, fut quelque magicien ou quelque dragon. Ce que la belle avait trouvé de si délicieux au toucher et si digne de ses baisers était donc la peau d'un serpent. Jamais femme s'était-elle trompée de la sorte. D'autres fois, elle se remettait en mémoire la pompe funèbre qui avait servi de cérémonie à son mariage, les horribles bêtes de ce rocher, surtout le dragon qu'avaient vu ses sœurs et qui, étant soutenu par le zéphyr, ne pouvait être autre que son mari. Cette dernière pensée l'emportait toujours sur les autres, soit par une fatalité particulière, soit à cause que c'était la pire et que notre esprit va naturellement là. Au bout de 5 ou 6 jours, les deux sœurs revinrent. Elles s'étaient abandonnées dans les airs comme si elles eussent voulu se laisser tomber. Un souffle agréable les avait incontinemment enlevées, portées au sommet du roc. Psyché leur demanda dès l'abord où était la lampe et le poignard. Les voici, dit ce couple, et nous vous assurons de la clarté que fait la lampe. Pour le poignard, il est des bons, bien affilés, de bonnes trempes. Comme nous vous aimons et ne négligeons rien quand il s'agit de votre bien, nous avons eu le soin d'empoisonner la lame. Tenez-vous sûr de ses coups. C'est fait du monstre, votre époux, pour peu que ce poignard l'entame. À ces mots, un trait de pitié toucha le cœur de notre belle. « Je vous rends grâce, leur dit-elle, de tant de marques d'amitié. » Psyché leur dit ces paroles assez froidement, ce qui leur fit craindre qu'elle n'eût changé d'avis, mais elles reconnurent bientôt que l'esprit de leur cadette était toujours dans la même assiette et que ce sentiment de pitié dont elle n'avait pas été la maîtresse était ordinaire à ceux qui sont sur le point de faire du mal à quelqu'un. Quand nos deux furies eurent mis leur sœur en train de se perdre, elles la quittèrent et ne firent pas long séjour aux environs de cette montagne. Le mari vint le soir, avec une mélancolie extraordinaire et qui lui devait être un pressentiment de ce qui se préparait contre lui. Mais les caresses de sa femme le rassurèrent. Il se coucha donc et s'abandonna au sommeil aussitôt qu'il fut couché. Voilà Psyché bien embarrassée. Comme on ne connaît l'importance d'une action que quand on est prêt de l'exécuter, elle envisagea la sienne dans ce moment-là avec ses suites les plus fâcheuses et se trouva combattue de je ne sais combien de passions aussi contraires que violentes. L'appréhension, le dépit, la pitié, la colère et le désespoir, la curiosité principalement, tout ce qui porte à commettre quelques forfaits et tout ce qui en détourne, s'empara du cœur de notre héroïne et en fit la scène de cette agitation différente. Chaque passion le tirait à soi. Il fallut pourtant se déterminer. Ce fut en faveur de la curiosité que la belle se déclara, car pour la colère, il lui fut impossible de l'écouter quand elle songea qu'elle allait tuer son mari. On n'en vient jamais à une telle extrémité sans de grands scrupules et sans avoir beaucoup à combattre. Qu'on fasse telle mine que l'on voudra, qu'on se querelle, qu'on se sépare, qu'on proteste de se haïr, il reste toujours un levain d'amour entre deux personnes qui ont été unies si étroitement. Ces difficultés arrêtèrent la pauvre épouse quelque peu de temps. Elle les franchit à la fin, se leva sans bruit, prit le poignard et la lampe qu'elle avait cachée, s'en alla le plus doucement qu'il lui fut possible vers l'endroit du lit où le monstre s'était couché, avançant un pied puis un autre et prenant bien garde à les poser par mesure comme si elle eût marché sur des pointes de diamant. Elle retenait jusqu'à son haleine et craignait presque que ses pensées ne la décelassent. Il s'en fallut peu qu'elle ne priât son ombre de ne point faire de bruit en l'accompagnant. À pas tremblants et suspendus, elle arrive enfin où repose son époux aux bras étendus, époux plus beau qu'aucune chose. C'était aussi l'amour. Son teint, par sa fraîcheur, par son éclat, par sa blancheur, rendait le lys jaloux, faisait honte à la rose. Avant que de parler du teint, je devrais vous avoir dépeint, pour aller droit par ordre à l'affaire, la posture du dieu. Son col était penché. C'est ainsi que le somme en sa grotte est couché. Ce qu'il ne fallait pas vous taire, ses bras demi-nus étalaient des appâts, non d'un Hercule ou d'un Atlas, d'un Pan, d'un Sylvain ou d'un Faune, ni même ceux d'une Amazone, mais ceux d'une Vénus à l'âge de 20 ans, ses cheveux épars et flottants et que des mains de la nature avaient frisés à l'aventure, celles de flore parfumées cachaient quelques attraits dignes d'être estimés. Mais Psyché n'en était qu'à prendre plus facile, car pour un qu'ils cachaient, l'en soupçonnaient mille. Leurs anneaux, leurs boucles, leurs nœuds, tour à tour de Psyché reçurent tous des vœux. Chacun eut à part son hommage, une chose nuisit pourtant à ses cheveux, ce fut la beauté du visage. Que vous en dirai-je, et comment en parler assez dignement? Suppléez à mon impuissance. Je ne vous aurai d'aujourd'hui dépeint les beautés de celui qui des beautés a l'intendance. Que dirais-je des traits où les rides sont rejetés, de ce que les amours ont entre eux partagé, des yeux aux brillantes merveilles qui sont les portes du désir, et surtout des lèvres vermeilles qui sont les sources du plaisir. Psyché y demeura comme transportée à l'aspect de son époux. Dès l'abord, elle jugea bien que c'était amour. Quel autre dieu lui aurait paru si agréable? Ce que la beauté, la jeunesse, le divin charme qui communique à ces choses le don de plaire, ce qu'une personne faite à plaisir peut causer aux yeux de volupté, de ravissement à l'esprit, Cupidon en ce moment-là le fit sentir à notre héroïne. Il dormait à la manière d'un dieu, c'est-à-dire profondément, penché nonchalamment sur son oreiller, un bras sur sa tête, l'autre bras tombant sur les bords du lit, couvert à demi d'un voile de gaze, ainsi que sa mère en use, et les nymphes aussi, et quelquefois les bergères. La joie de Psyché fut grande, si l'on doit appeler joie ce qui est proprement extase. Encore ce mot est-il faible et n'exprime pas la moindre partie du plaisir que reçut la belle. Elle bénit mille fois le défaut du sexe. Ce sut très bon gré d'être curieuse, bien fâchée de n'avoir pas contrevenu dès le premier jour aux défenses qu'on lui avait faites et à ses serments. Il n'y avait pas d'apparence, selon son sens, qu'il en dût arriver de mal. Au contraire, cela était bien, et justifiait les caresses que jusque-là elle avait cru faire à un monstre. La pauvre femme se repentait de ne lui en avoir pas fait davantage. Elle était honteuse de son peu d'amour, toute prête de réparer cette faute si son mari le souhaitait, quand même il ne le souhaiterait pas. Ce ne fut pas à elle peu de retenue de ne point jeter la lampe et le poignard pour s'abandonner à son transport. Véritablement, le poignard lui tomba des mains, mais la lampe, non, elle en avait trop à faire, elle n'avait pas encore vu tout ce qu'il y avait à voir. Une telle commodité ne se rencontrait pas tous les jours, il s'en fallait donc servir. C'est ce qu'elle fit, sollicitée de faire cesser son plaisir par son plaisir même. Tantôt la bouche de son mari lui demandait un baiser, et tantôt ses yeux, mais la crainte de l'éveiller l'arrêtait tout court. Elle avait de la peine à croire ce qu'elle voyait, se passait la main sur les yeux, craignant que ce ne fût songe et illusion, puis recommençait à considérer son mari. « Dieu immortel, dit-elle en soi-même, est-ce ainsi que sont faits les monstres? Mais comment donc est fait ce qu'on appelle amour? Oh, que tu es heureuse, Psyché! Ah, divin époux, pourquoi m'as-tu refusé si longtemps la connaissance de ce bonheur? Craignais-tu que j'en mourusse de joie? Était-ce pour plaire à ta mère ou à quelqu'une de tes maîtresses? Car tu es trop beau pour ne faire le personnage que de mari. Quoi, je t'ai voulu tuer? Quoi, cette pensée m'est venue? Oh, Dieu, je frémis d'horreur à ce souvenir. Suffisait-elle pas, cruelle Psyché, d'exercer ta rage contre toi seule? L'univers n'eut rien perdu. Et sans ton époux, que deviendrait-il? Folle que je suis, mais mon mari est immortel. Il n'a pas tenu à moi qu'il ne le fût point. Après ces réflexions, il lui prit envie de regarder de plus près celui qu'elle n'avait déjà que trop vu. Elle pencha quelque peu l'instrument fatal qu'il avait jusque-là servi si utilement. Il en tomba sur la cuisse de son époux une goutte d'huile enflammée. La douleur éveilla le dieu, et il vit la pauvre Psyché qui, toute confuse, tenait sa lampe. Et, ce qui fut le plus malheureux, il vit aussi le poignard tomber près de lui. Dispensez-moi de vous raconter le reste. Vous seriez touché de trop de pitié au récit que je vous ferai. La criminelle Psyché n'eut pas l'assurance de dire un mot. Elle se pouvait jeter à genoux devant son mari, elle lui pouvait conter comme la chose s'était passée, et si elle l'eût justifié entièrement son dessein, elle en aurait du moins rejeté la faute sur ses deux sœurs. En tout cas, elle pouvait demander pardon, prosterner aux pieds de l'amour, les lui embrassant avec des marques de repentir et les lui mouillant de ses larmes. Il y avait outre cela un parti à prendre, c'était de relever le poignard par la pointe et le présenter à son mari en lui découvrant son sein et en l'invitant de percer un cœur qui s'était révolté contre lui. L'étonnement et sa conscience lui ôtèrent l'usage de la parole et celui des sens. Elle demeura immobile et baissant les yeux, elle attendit avec des transes mortelles sa destinée. Cupidon, outré de colère, ne sentit pas la moitié du mal que la goutte d'huile lui avait fait dans un autre temps. Il jeta quelques regards foudroyants sur la malheureuse Psyché. Puis, sans lui faire seulement la grâce de lui reprocher son crime, ce dieu s'envola et le palais disparut. Plus de nymphes, plus de zéphyr. La pauvre épouse se trouva seule sur le rocher, demi-morte, pâle, tremblante, et tellement possédée de son excessive douleur qu'elle demeura longtemps les yeux attachés à terre, sans se connaître et sans prendre garde qu'elle était nue. Ses habits de fille étaient à ses pieds, elle avait les yeux dessus et ne les apercevait pas. Cependant, l'amour était demeuré dans l'air, afin de voir à quelles extrémités son épouse serait réduite. Ne voulant pas qu'elle se portât à aucune violence contre sa vie, soit que le courroux du dieu n'eût pas éteint tout à fait en lui la compassion, soit qu'il réservât Psyché à de longues peines et à quelque chose de plus cruel que de se tuer soi-même. Il la vit tomber évanouie sur la roche dure. Cela le toucha, mais non jusqu'au point de l'obliger à ne se plus souvenir de la faute de son épouse. Psyché ne revint à soi de longtemps après. La première pensée qu'elle eut, ce fut de courir à un précipice. Là, considérant les abîmes, leur profondeur, les pointes des rocs toutes prêtes à la mettre en pièces, et levant quelquefois les yeux vers la lune qui l'éclairait, « Sœur du soleil, lui dit-elle, que l'horreur du crime ne t'empêche pas de me regarder. Sois témoin du désespoir d'une malheureuse, et fais-moi la grâce de raconter à celui que j'ai offensé les circonstances de mon trépas, mais ne les raconte point aux personnes dont je tiens le jour. Tu vois dans ta course des misérables, dis-moi, y en a-t-il un de qui la fortune ne soit légère au prix de la mienne ? Rochers élevés, qui serviez naguère de fondements à un palais dont j'étais maîtresse, qui aurait dit que la nature vous eût formé pour me servir maintenant un usage si différent ? À ces mots, elle regarda encore le précipice, et en même temps la mort se montra à elle sous sa forme la plus affreuse. Plusieurs fois elle voulut s'élancer, plusieurs fois aussi un sentiment naturel l'en empêcha. Quelles sont, dit-elle, mes destinées? J'ai quelque beauté, je suis jeune. Il n'y a qu'un moment que je possédais le plus agréable de tous les dieux, et je vais mourir. Je me vais moi-même donner la mort. Faut-il que l'aurore ne se lève plus pour Psyché? Quoi? Voilà les derniers instants qui me sont donnés par les parcs. Encore, si ma nourrice me fermait les yeux, si je n'étais point privé de la sépulture. Ces irrésolutions et ces retours vers la vie, qui font la peine de ceux qui meurent et dont les plus désespérés ne sont pas exempts, entretinrent un cruel combat dans le cœur de notre héroïne. Douce lumière, s'écria-t-elle, qu'il est difficile de te quitter. Hélas, en quel lieu irai-je quand je me serai banni moi-même de ta présence? Charitable fille d'enfer, aidez-moi à rompre les nœuds qui m'attachent. Venez, venez me représenter ce que j'ai perdu. Alors elle se recueillit en elle-même, et l'image de son malheur, étouffant enfin ce reste d'amour pour la vie, l'obligea de s'élancer avec tant de promptitude et de violence que le zéphyr qui l'observait et qui avait ordre de l'enlever quand le comble du désespoir l'aurait amené à ce point, n'eut presque pas le loisir d'y apporter le remède. Psyché n'était plus s'il eût attendu encore un moment. Il la retira du gouffre, et lui faisant prendre un autre chemin dans les airs que celui qu'elle avait choisi, il l'éloigna de ses lieux funestes et l'alla poser avec ses habits sur le bord d'un fleuve dont la rive extraordinairement haute et fort escarpée pouvait passer pour un précipice encore plus horrible que le premier. C'est l'ordinaire des malheureux d'interpréter toute chose sinistrement. Psyché se mit en l'esprit que son époux, outré le ressentiment, ne l'avait fait transporter sur le bord d'un fleuve qu'afin qu'elle se noyât. Ce genre de mort étant plus capable de le satisfaire que l'autre parce qu'il était plus lent et par conséquent plus cruel. Peut-être même ne fallait-il pas qu'elle souillât de sang ses rochers. Savait-elle si son mari ne les avait point destinés à un usage tout opposé? Ce pouvait être une retraite amoureuse où l'infant de Cypre, craignant sa mère, logeait secrètement ses maîtresses comme il y avait logé son épouse, car le lieu était écarté et inaccessible. Ainsi, elle aurait commis un sacrilège si elle avait fait servir à son désespoir ce qui ne servait qu'au plaisir. Et voilà comment raisonnait la pauvre Psyché, ingénieuse à se procurer du mal, mais bien éloignée de l'intention qu'avait eu l'amour à qui cet endroit où la belle se trouvait alors était venu fortuitement dans l'esprit, ou qui peut-être l'avait laissé à la discrétion du zéphyr. Il voulait la faire souffrir, tant s'en faut qu'il exigea d'elle une mort si prompte. Dans cette pensée, il défendit au zéphyr de la quitter, pour quelque occasion que ce fût, quand même Flore lui aurait donné un rendez-vous, tant que cette première violence eût jeté son feu. Je me suis étonné 100 fois, comme le zéphyr n'en devint pas amoureux. Il est vrai que Flore a bien du mérite. Puis de courir sur les pas d'un maître, et d'un maître comme l'amour, c'eût été à lui une perfidie trop grande et même inutile. Le zéphyr, ayant donc l'œil incessamment sur Psyché, et lui voyant regarder le fleuve d'une manière toute pitoyable, il se douta de quelque nouvelle pensée de désespoir, et, pour n'être pas surpris encore une fois, il en avertit aussitôt le dieu de ce fleuve, qui, de bonne fortune, tenait sa cour à 2 pas de là, et qui avait alors auprès de lui la meilleure partie de ses nymphes. Ce dieu était d'un tempérament froid et ne se souciait pas beaucoup d'obliger la belle ni son mari. Néanmoins, la crainte qu'il eût que les poètes le diffamassent si la première beauté du monde, fille de roi et femme d'un dieu, se noyait chez lui et ne l'appelasse frère du Styx, cette crainte, dis-je, l'obligea de commander à ses nymphes qu'elle recueillisse Psyché et qu'elle l'apportasse vers l'autre rive qui était moins haute et plus agréable que celle-là, près de quelque habitation. Les nymphes lui obéirent avec beaucoup de plaisir. Elles se rendirent toutes à l'endroit où était la belle et se cachèrent sous le rivage. Psyché faisait alors des réflexions sur son aventure, ne sachant que conjecture du dessein de son mari, ni à quelle mort se résoudre. À la fin, tirant de son cœur un profond soupir, « Eh bien, dit-elle, je finirai ma vie dans les eaux, Veuille seulement les destins que ce supplice te soit agréable. » Et aussitôt elle se précipita vers le fleuve, bien étonnée de se voir incontinent entre les bras de Simonossé et de la gentille Naïs. Ce fut la plus heureuse rencontre du monde. Ces deux nymphes ne faisaient presque que de la quitter, car l'amour l'avait choisi de toutes les sortes et dans tous les cœurs pour servir de fil d'honneur à notre héroïne pendant le temps bienheureux où elle avait fait part aux exactions et à la fortune d'un dieu. Cette rencontre, qui devait du moins lui apporter quelques consolations, ne lui apporta au contraire que du déplaisir. Comment se résoudre sans mourir à paraître ainsi malheureuse et abandonnée devant celle qui la servait il n'y avait pas plus d'une heure? Telle est la folie de l'esprit humain. Les personnes nouvellement déchues de quelque état florissant fuient les gens qui les connaissent avec plus de soin qu'elles n'évitent les étrangers et préfèrent souvent la mort au service qu'on leur peut rendre. Nous supportons le malheur et ne saurions supporter la honte. Je ne vous assurerai pas si ce fleuve avait des tritons et je ne sais pas bien si c'est la coutume des fleuves que d'en avoir. Ce que je puis vous en assurer, c'est qu'aucun triton n'approcha de notre héroïne. Les seules naïades eurent cet honneur. Elles se pressaient si fort autour de la belle que malaisément un triton y eut trouvé place. Naïs et Simonossé la tenaient entre leurs bras, tandis que d'abattement et de lassitude, elles se laissaient alors la tête languissamment, tantôt sur l'une, tantôt sur l'autre, arrosant leur sein tour à tour avec ses larmes. Aussitôt qu'elle fut à bord, ces deux nymphes, qui avaient été du nombre de ses favorites, comme prudentes et discrètes entre toutes les nymphes du monde, firent signe à leur compagne de se retirer, et ne diminuant rien du respect avec lequel elle la servait pendant sa fortune, elles prirent ses habits des mains du zéphyr, qui se retira aussitôt, et demandèrent à Psyché si elle ne voulait pas bien qu'elles eussent l'honneur de l'habiller encore une fois. Psyché se jeta à leurs pieds pour toute réponse et les leur baisa. Cet abaissement excessif leur causa beaucoup de confusion et de pitié. L'amour même en fut touché plus que de pas une chose qui fut arrivé à notre héroïne depuis sa disgrâce. Il ne l'avait point quitté de vue, recevant quelque satisfaction à l'aspect du mal qu'elle se faisait, car cela ne pouvait partir que d'un bon principe. Cupidon goûtait dans les airs ce cruel plaisir. Le battement de ses ailes obligea Naïs et Simonossé de tourner la tête. Elles aperçurent le dieu, et par considération, tout au moins autant que par respect, mais principalement pour faire plaisir à la belle, elles se retirèrent à leur tour. « Eh bien, Psyché, dit l'amour, que te semble de ta fortune? Est-ce impunément que l'on veut tuer le maître des dieux? Il te tardait que tu te fusses détruite, te voilà contente. Tu sais comme je suis fait, tu m'as vu. Mais de quoi cela te peut-il servir? Je t'avertis que tu n'es plus mon épouse. » Jusque-là, la pauvre Psyché l'avait écoutée sans lever les yeux. À ce mot d'épouse, elle dit: hélas, je suis bien éloignée de prendre cette qualité. Je n'ose seulement espérer que vous me recevrez pour esclave. « Ni mon esclave non plus, reprit l'amour. C'est de ma mère que tu l'es, je te donne à elle. Et garde-toi bien d'attenter contre ta vie. Je veux que tu souffres, mais je ne veux pas que tu meures. Tu en serais trop quitto. Que si tu as dessein de m'obliger, venge-moi de tes deux démons de sœur. N'écoute ni considération, ni rang, ni sang, ni pitié. Sacrifie-les-moi, Adieu, psyché. La brûlure que cette lampe m'a faite ne me permet pas de t'entretenir plus longtemps. Ce fut bien là que l'affliction de notre héroïne reprit des forces. Exécrable lampe, maudite lampe, avoir brûlé un dieu si sensible et si délicat, qui ne saurait rien endurer, l'amour. Pleure, pleure, psyché, ne te repose ni jour ni nuit. Cherche sur les monts et dans les vallées quelque herbe pour te guérir et porte-la lui. S'il ne s'était point empressé de me dire adieu, il verrait l'extrême douleur que son mal me fait, et ce lui serait un soulagement, mais il est parti. Il est parti, sans me laisser aucune espérance de le revoir. Cependant, l'aurore vint éclairer la fortune de notre belle et amena en ce jour-là force nouveautés. Vénus, entre autres, fut avertie de ce qui était arrivé à Psyché. Et voyez comme les choses se rencontrent. Les médecins avaient ordonné à cette déesse de se baigner pour des chaleurs qui l'incommodaient. Elle prenait son bain dès le point du jour, puis se recouchait. C'était dans ce fleuve qu'elle se baignait d'ordinaire, à cause de la qualité de ses eaux refroidissantes. Je pense même vous avoir dit que le dieu du fleuve en tenait un peu. Une oie, babillarde, qui savait ces choses, et qui, se trouvant cachée à près des glaïeuls, avait vu Psyché arriver à bord, et avait entendu ensuite les reproches de son mari, ne manqua pas d'aller redire à Vénus toute l'aventure de point en point. Vénus ne perd point de temps. Elle envoie Jean de tous les côtés avec ordre de lui amener, morte ou vive, Psyché, son esclave. Il s'en fallut peu que ces gens ne la rencontrassent. Dès que son époux l'eut quittée, elle s'habilla, ou pour mieux lui parler, elle jeta sur soi ses habits. C'étaient ceux qu'elle avait quittés en se mariant, habits lugubres et commandés par l'oracle, comme vous pouvez vous en souvenir. En cet état, elle résolut d'aller par le monde, cherchant quelque herbe pour la brûlure de son mari, puis de le chercher lui-même.